Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui dans Podcasting, nous allons au Pays Basque. La revue Far West nous raconte comment un club de randonnée LGBT, les Bascos, s'est peu à peu mis à lutter contre les discriminations et à militer pour défendre les droits des minorités sexuelles. L'article s'appelle « LGBT plus de Bayonne, sortir à la lumière ». C'est vous qui l'avez écrit, Chloé Rébillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste dans le Pays Basque et vous collaborez régulièrement pour Far West. Vous vous êtes donc intéressée à l'histoire de cette association, les Bascos. Avant toute chose, est-ce que peut-être nous pouvons rappeler ce que signifie l'acronyme LGBT+.
Alors, LGBT+, c'est à la base, c'est lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre. On a rajouté un plus parce qu'il y a aussi d'autres identités qui n'étaient pas comprises dans ce premier acronyme, qui sont les personnes intersexuelles, les asexuelles. Enfin, il y a tout un champ de l'identité assez multiple, qui ont toutes pour point commun de sortir du champ de l'hétéronormativité. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté un plus.
Pour les Bascos, tout commence en 2004 avec une annonce dans le magazine Têtu, c'est ça ?
Oui, exactement. Donc le magazine Têtu, qui est un magazine LGBT plus également. Et en 2004, il y a Bernard Gachin, donc qui est le fondateur de l'association, qui a posté une petite annonce qui disait « Baroudeur de retour sur les terres basques, recherche complice pour partager passion de la montagne ». Et à partir de là, l'association s'est créée.
Aujourd'hui, il y a 300 adhérents. Qui est Bernard Gachin et quelles sont les actions de l'association à sa création en 2004 ?
Alors Bernard Gachin, il a créé l'association et il est resté très longtemps le président de cette association des Bascos. Il a laissé la main depuis peu, mais il reste un des membres actifs de l'association. Et lorsqu'il l'a créée, elle est très tournée vers la randonnée en montagne, comme le laissait à penser sa petite annonce. Donc à l'origine, ce sont des personnes qui se regroupent pour faire des sorties en montagne. Mais dès le début, il y a une identité LGBT+, du fait de la genèse qui est née dans les pages de Têtu et qui en fait une association marquée par cette identité dès les débuts. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Avant la création de cette association, quelles étaient les autres associations LGBT+ dans la région de Biarritz, Bayonne ?
Alors, il y avait une autre association et c'était elle qui organisait la Pride historiquement. Elle s'appelait Lesbian Gay Pride Biarritz Impact et en fait, elle s'est dissoute en 2010 suite à des difficultés internes.
Il y avait aussi des bars gays à Biarritz depuis les années 70.
Oui, alors en fait, Biarritz, c'est une station balnéaire assez connue, on va pas se mentir, et qui attire beaucoup de touristes. Et parmi ces touristes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient attirées par l'étiquette LGBT+ de la ville. Il y avait beaucoup de bars gays, lesbiens, qui, dans le milieu notamment nocturne en fait de la ville. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour cette identité-là. Alors, cette forte identité, elle a un peu décliné, mais il reste quand même des établissements emblématiques aujourd'hui à Biarritz, comme l'arrière-train, en fait, par exemple.
En 2010, les Bascos organisent donc la Pride de Bayonne suite à la dissolution de l'autre association. C'est une première action plus militante pour les Bascos qui, au départ, organisaient plutôt des randonnées.
Alors, avant 2010, les Bascos, ils aidaient déjà à l'organisation de la Pride, mais ils n'étaient pas l'association organisatrice. Ils étaient en soutien de l'autre association. Et donc, en fait, comme cette dernière disparaît en 2010, ils décident de reprendre le flambeau pour ne pas que la Pride disparaisse à son tour. Et donc, maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont aux manettes et la Pride a eu lieu vraiment tous les ans. Juste en 2020, l'année dernière, elle a eu lieu en visioconférence Covid-19 oblige. Et cette année, elle aura lieu le 25 septembre dans les rues de Biarritz. À mon sens, c'est un premier pas vers plus de militantisme et vers plus de visibilité, mais le véritable tournant militant des Bascos, il se fait quand même un peu plus tard.
En 2013, lors des débats sur le mariage pour tous, vous avez parlé de cette période avec Michaela Clapisson, dite Mika, qui est responsable du pôle convivialité de l'association. Qu'est-ce qui l'a marqué à cette époque en 2013 ?
Alors, Michaela Clapisson, comme Jean-François Seyant, que j'ai aussi rencontré, ont noté une aggravation des discours homophobes à ce moment-là. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, hein, SOS Homophobie, qui publie tous les ans un rapport des agressions homophobes, a noté que l'année 2013 a été la pire année à ce niveau-là.
Cette année-là, donc en 2013, pendant qu'il y a de nombreuses manifestations en France contre le mariage pour tous, il y a aussi des manifestations pour défendre ce mariage. Et Bernard Gachin va donc décider d'aller jusqu'à Paris en bus avec des militants, c'est ça ?
Oui, et c'est le moment où l'association va vraiment se tourner vers le militantisme. Il y a des personnes qui rejoignent ce bus, qui ne sont donc plus des amateurs de randonnée ou des organisateurs de la Pride, mais des gens avec un profil beaucoup plus militant. Et c'est le moment où l'association va réellement développer cette partie de son activité à la faveur de ces nouvelles arrivées. D'ailleurs, c'est le cas de Jean-François chez Célian et de son mari. Ils entrent en contact avec l'association à cette occasion. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs lui, celui qui est surnommé Jeff, du coup, qui est le coprésident en charge du pôle militant de l'association.
Vous l'avez dit, au fur et à mesure, les Bascos deviennent de plus en plus militants. Une autre action très forte, c'est en 2018. Ils se joignent à d'autres associations pour faire annuler les conférences de l'évêque de Bayonne, Marc Hayet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est cet évêque ?
Alors, Monseigneur Hayet, c'est l'évêque de Bayonne. Il est lui aussi très militant, mais pas du tout sur les mêmes valeurs. Il se situe du côté ultra-traditionaliste. Il a été plusieurs fois pointé du doigt pour sa proximité avec certains milieux d'extrême droite, notamment. Et il a beaucoup milité au sein de la Manif pour tous, en défaveur du mariage des personnes LGBT+. Et donc ses positions sont complètement antinomiques avec celles des Bascos, et ça fait qu'ils se sont plusieurs fois opposés. En 2018, il voulait organiser en fait au sein de sa paroisse des conférences avec une association qui s'appelle Courage, qui officiellement prône la chasteté pour les homosexuels, mais qui est soupçonné officieusement de proposer des thérapies dites de conversion pour guérir les homosexuels et les mener sur le chemin de l'hétérosexualité.
Donc les Bascos se sont évidemment opposés à ce que cette personne fasse des conférences. Comment ont-ils fait concrètement ?
Alors, en fait, ils ont fait connaître l'existence de ces conférences dans le champ public. Ils ont beaucoup axé sur la médiatisation, l'interpellation des politiques. Donc ça a commencé à prendre un peu d'ampleur dans les médias locaux, même nationaux. Cette communication a fait que l'évêché qui aurait préféré garder discrète en fait ces conférences, a reculé. Ils avaient aussi prévenu qu'ils allaient manifester pendant la tenue des conférences. Donc, en fait, Marc Haillier a préféré reculer devant le battage médiatique et les réunions n'ont pas eu lieu. Ça a été assez surprenant. Hein. Les gens ne pensaient pas que l'évêque reculerait, mais en fait, c'est ce qui s'est passé.
Autre lieu important pour les Bascos, c'est leur local. Le lieu s'appelle Chalaparta. Il a été ouvert en 2014. À quoi ressemble ce lieu et surtout à quoi sert-il ?
C'est un local associatif qui est situé dans le quartier du Petit Bayonne, qui est un quartier aussi assez militant. Ils y tiennent surtout des permanences pour le pôle social de l'association, où là, ils font plus de l'accompagnement des personnes en difficulté, donc des personnes qui sont confrontées à de l'homophobie, ou des personnes qui auraient besoin de leur soutien sur des questions de discrimination, qui tiennent des permanences pour accompagner ces personnes.
Sachant que la période du confinement en 2020 a pu être d'autant plus difficile pour les personnes LGBT+, c'est ça ?
Ça, c'est Michaela Clapisson qui me l'a dit. Elles ont noté une recrudescence en fait des violences, notamment intrafamiliales, envers les personnes en raison de leur identité de genre ou d'orientation sexuelle, puisque en fait des personnes qui vivaient ces identités-là un peu cachées n'ont pas pu le cacher du fait de la promiscuité induite par le confinement, et donc ça a créé des tensions. Au sein de certaines familles.
Ce local, Chalaparta, il sert aussi, c'est aussi une peña pendant les fêtes de la ville, où viennent faire la fête aussi bien les LGBT+, que les personnes qui ne le sont pas.
Oui, maintenant c'est devenu un lieu reconnu des fêtes de Bayonne. Il y a des personnes qui y passent qui sont LGBT+, d'autres qui ne le sont pas. Michaela Clapisson m'avait confié une anecdote comme quoi il y avait des personnes qui étaient venues devant le local en disant « Ah, c'est la peña des PD !» et qui en étaient finalement ressorties ravies parce que justement c'est un endroit où, de ce qu'on m'a dit, on y fait particulièrement bien la fête. D'ailleurs, c'est Michaela Clapisson, elle est responsable du lieu et en 2020, elle a été élue présidente du groupement des peñas bayonnaises. Alors, outre qu'elle est la première femme à occuper cette responsabilité, c'est aussi le symbole que Chalaparta est reconnu par les autres peñas aussi comme un lieu incontournable.
Justement, une quinzaine d'années après sa création, l'association a donc pris de plus en plus de place et plus visible, et c'est devenu finalement une référence locale sur les questions LGBT+, dans la région de Bayonne.
C'est parti d'un club de randonnée, et aujourd'hui, c'est l'association mène des actions militantes, accompagne des personnes en difficulté, elle a créé plusieurs commissions en son sein, et elle est, oui, effectivement reconnue comme un interlocuteur important sur tout ce qui touche à l'homophobie. C'est arrivé que les autorités fassent appel à eux dans le cas de violences homophobes. Ils sont aussi en contact avec d'autres associations qui ont d'autres champs d'action. Par exemple, ils sont en lien avec les associations qui s'occupent des migrants et qui n'hésitent pas à les prévenir si une personne exilée LGBT+ a besoin de soutien ou si elle est confrontée à de l'homophobie. Ils interviennent également au milieu scolaire pour faire de la prévention, dans les maisons de retraite. En fait, leur champ d'action s'est vraiment considérablement élargi en 15 ans d'existence.
Et est-ce qu'il y a toujours les randonnées ?
Toujours, c'est un des piliers de l'association. Elle a démarré avec cette activité et ça reste un des moteurs.
Merci Chloé Rébillard. Votre article « LGBT+ de Bayonne sortir à la lumière » est à lire sur le site internet de la revue Far West.
Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.